De retour à Délirium environnemental, l'émission de radio en environnement, actualité environnementale et évidemment entrevue de fond en environnement. Nicolas Mainville qui prend la relève de Patrick Bonin pour la troisième partie de l'émission, puisqu'on a le plaisir de s'entretenir avec un expert des aires protégées au Québec, Jean-François Gagnon, qui est directeur général de la Société pour la nature et les parcs depuis 2 ans et demi, qui travaille évidemment très fort pour qu'on puisse ici au Québec avoir une certaine proportion du territoire qui soit protégée. Donc on s'est dit que c'était évidemment très intéressant d'avoir Jean-François Gagnon aujourd'hui pour parler de la question du parc d'Oka et du parc du Mont-Offord, puisqu'il y a certaines menaces qui planent. Donc Jean-François, comment que ça va? Bonjour.
Bonsoir M. Mainville, ça va très bien. Oui, deux dossiers chauds, parc d'Oka, parc d'Offord, je bouille d'impatience de vous en parler.
Bon, mais peut-être avant de se lancer dans ces dossiers-là, on va peut-être faire un petit rappel aux auditeurs. Qu'est-ce qu'une aire protégée, premièrement? Essayez de nous expliquer c'est quoi une aire protégée et qu'est-ce que ça implique.
En fait, une aire protégée, c'est un morceau de territoire, c'est une parcelle qu'on a mis de côté à des fins de conservation. On veut vraiment que la biodiversité soit laissée elle-même. Et la particularité de ces sites-là, des aires protégées, c'est que les activités de nature industrielle, on parle à l'exploitation des ressources hydroélectriques, on parle à la foresterie, l'activité minière. Alors, tout ce qui est de nature industrielle n'est pas permis dans une aire protégée.
Okay.
Alors, ce qui est un peu mêlant au Québec, c'est qu'on a plusieurs types d'aires protégées. On a plus d'une vingtaine de statuts différents qui offrent certains niveaux de protection, mais on s'entend que chacun des 22 ou des 25 statuts qu'on a actuellement au Québec ne permet aucune forme d'activité industrielle.
Donc, il y a 25 statuts d'aires protégées au Québec. Il y a aussi des statuts internationaux d'aires protégées. Est-ce qu'il y a la même stratégie de nomination pour ces aires protégées-là? Je parle entre autres de l'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature. Est-ce que c'est les mêmes choses, ces 25 types d'aires protégées au Québec et les types de catégories de l'UICN?
En fait, les catégories de l'UICN, c'est tout simplement des fins comparatives. Ça l'aide à comparer les aires protégées d'un pays avec un autre pays. En soi, ça n'a pas de valeur légale, un statut de l'UICN, une catégorie de l'UICN, c'est tout simplement pour comparer. Maintenant, j'ai dit 25 statuts, c'est peut-être 26 ou c'est peut-être même rendu à 27, ça monte à tous les jours parce qu'il y a des nouveaux statuts qui sont venus s'ajouter à ceux existants. Je crois que la plupart des auditeurs connaissent les réserves écologiques, un statut très sévère de protection. Les gens connaissent probablement aussi les parcs nationaux du Québec ou les parcs nationaux du Canada, mais à ça s'ajoute toute une série de statuts, dont certains sont relativement nouveaux. En 2002, on a inclus dans la législation des nouveaux statuts. Je parle entre autres de la réserve de biodiversité ou de la réserve aquatique, qui ont la particularité d'être des statuts flexibles. On y interdit les activités industrielles, mais on peut ajuster les règles pour les activités de loisirs, de plein air ou de prélèvement, comme la chasse et la pêche, en fonction des réalités de ces milieux-là.
OK. Donc, quand on considère tous ces 25 types d'aires protégées-là, on parle de quel pourcentage du Québec en ce moment qui est protégé?
En fait, la question se pose de deux façons. Qu'est-ce qu'on a qui est mis sur la table actuellement à des fins de conservation? On parle d'environ 3 % du territoire.
Wow.
Le gouvernement annonce plus que 3 %, on y reviendra, mais au niveau de la SNAP, on reconnaît que 3 % de territoires qui sont protégés à des fins de conservation. Mais ce qu'il faut comprendre dans ce 3 %-là, la grande majorité de ces sites-là n'ont que des statuts temporaires de protection. Alors, au moment où est-ce qu'on se parle, malgré tous les efforts qui ont été faits dans les dernières années, il y a encore moins de 1 % du territoire québécois qui bénéficie d'une protection permanente. Et c'est ça qui nous fait un peu dresser les cheveux sur la tête à la SNAP, c'est de voir que 99 % du territoire est ouvert aux activités de type industriel. Alors, c'est très peu, c'est inquiétant.
Donc, les chiffres qu'on entend, qu'on voit passer, les 5,5 % d'air protégé au Québec, c'est de la foutaise?
Pas nécessairement de la foutaise, parce qu'il y a une logique derrière, mais cette logique-là est vraiment... On vient grossir les chiffres, on vient vraiment gonfler aux stéroïdes les statistiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le 5.5 identifié par le gouvernement, il y a des sites qui ne répondent pas aux critères internationaux. Okay. Il y a des sites, entre autres, qu'on pense à l'île d'Anticosti, où est-ce qu'il y a de la coupe forestière, où est-ce qu'il y a des de la prospection pour le pétrole. On pense à des grands territoires dans le nord, qui sont des aires de mise bas du caribou. Ces territoires-là bénéficient pas d'une vraie protection. C'est-à-dire qu'on peut avoir des activités industrielles dans ces territoires-là, ce qui les disqualifie aux yeux des critères internationaux. Donc, le gouvernement du Québec ne devrait pas les inclure dans son calcul.
Mais là, on entend souvent parler de la stratégie québécoise sur les aires protégées. Est-ce qu'on va augmenter notre pourcentage d'aires protégées dans les prochaines années? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut espérer?
On espère. En fait, les engagements sont là depuis belle lurette. Écoute, depuis le retour de Rio en 92, qu'on se promet de poursuivre le réseau d'air protégé. Il y a des engagements, on signe des papiers. Depuis 2002, là, on est engagé dans la stratégie québécoise sur les aires protégées qui se veut vraiment là, un mécanisme de mise en œuvre de nouveaux territoires. On parle d'atteindre 8% du territoire. Mais le problème, c'est que la volonté politique n'est pas toujours au rendez-vous. On semble avoir plus souvent le pied sur le frein que sur l'accélérateur, parce qu'on remet toujours les échéances. Initialement, l'échéance était pour 2005, et là, les libéraux ont remis ça à la fin de leur mandat. Donc, on attend toujours les résultats. Ce qui peut aussi influencer l'avancement du dossier, c'est tout simplement qu'un jour ou l'autre, le gouvernement devra retirer les sites que j'ai mentionnés tout à l'heure, les sites problématiques qui ne sont pas reconnus à l'international. Il devra les retirer de sa liste d'aires protégées, ce qui risque momentanément de nous faire reculer dans notre pourcentage d'aires protégées au Québec.
Donc, on va reculer, c'est-à-dire qu'on va passer de 5,5 à... On sait pas trop quoi.
À 3 %. Nous, à 3%. C'est ce qu'on affirme en ce moment. En incluant les territoires protégés de manière permanente et ceux qui sont temporairement protégés, on est de l'ordre de 3 %.
Quelle est la moyenne mondiale?
La moyenne mondiale s'approche de 12 % actuellement.
Et au Canada?
Au Canada, c'est plus de l'ordre de 9 %.
OK, donc on traîne vraiment de la patte.
On est en retard, on le sait depuis longtemps. On promet beaucoup de corriger la situation. Encore une fois, dans la stratégie sur la diversité biologique qui vient d'être déposée par M. Molcaire, l'importance des aires protégées est vraiment soulignée, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous.
Mais justement, qu'est-ce qui fait que le gouvernement n'est pas capable d'aller de l'avant là-dedans? C'est quoi les gros blocages?
En fait, c'est parce que les aires protégées se font souvent, dans le cas de la forêt boréale, au détriment de l'industrie. C'est que l'industrie a beaucoup de droits sur le territoire québécois. Alors, c'est difficile de trouver un territoire qui n'est pas revendiqué soit par les compagnies forestières, soit par les compagnies minières, soit par Hydro-Québec. Alors, une fois que ces trois joueurs majeurs-là ont passé sur le territoire, il ne reste pas grand-chose. Et actuellement, c'est justement le combat qu'on mène de renverser la vapeur, qu'on place les aires protégées en fonction des objectifs de conservation et non pas en fonction de ce qui est délaissé par l'industrie.
Mais on va voir après la petite pause le cas du Mont Hufford qui pose vraiment problème. Délirium environnemental, un magazine radio d'information en environnement. Vous savez que si vous voulez réécouter les entrevues ou les nouvelles qu'on vous passe, c'est toujours possible sur notre site internet au www.radiodelirium.net. On a aujourd'hui le plaisir de s'entretenir avec Jean-François Gagnon de la Société pour la nature et les parcs qui travaille âprement à défendre le peu de territoire qui nous reste d'intègre. Et puis la question du Mont Offord, évidemment, est sur la sellette depuis quelques temps, puisque il y a un projet domiciliaire qui a été lancé par un contracteur. On parle de 1400 unités d'hébergement dans le parc même du Mont Offord, au pied des pentes de ski, et qui sera sous la loupe du BAP à partir du 1er février, si je ne me trompe pas, c'est ça?
En fait, depuis le mois de décembre, il y a eu les premières audiences du BAP.
Okay.
Mais ce n'est pas la première fois qu'on tient des consultations sur le sujet du parc du Mont-Offord.
Ah non, c'est quoi l'historique de cette histoire?
En fait, il y a tout un historique qui remonte à très longtemps. Il y a eu un choix de société de faire du ski alpin dans le parc du Mont-Offord, en fait, depuis la création. Et puis, d'année en année, la situation s'est détériorée avec le ski alpin. Et là, on se retrouve avec il y a eu des changements de promoteurs. On se retrouve avec un promoteur qui a la difficulté à maintenir l'activité ski alpin dans les parcs, dans le parc du Mont-Offord. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'activité ski alpin, c'est comme le golf. Ce sont des activités qui sont permises de manière exceptionnelle dans les parcs. C'est seulement dans les parcs où est-ce que l'activité était déjà en place qu'on les maintient. La politique sur les parcs est très claire à ce sujet-là. Le golf et le ski alpin n'ont plus leur place dans les parcs nationaux du Québec. Maintenant, on se retrouve avec une problématique. On a un centre de ski alpin qui n'est pas rentable au parc du Mont-Offord et le promoteur aimerait bien rentabiliser ses installations, continuer à opérer le ski alpin. Et il propose de construire un village un peu comme il s'est fait au Mont-Tremblant. On parle d'hôtels, on parle de condos. Et tout ça se fait soit directement à bordure du parc, soit à l'intérieur même du parc, ce qui, à notre avis, n'a pas sa place dans un parc là, voué à la conservation.
Ça serait quoi les répercussions environnementales d'un tel développement?
En fait, il y a toutes les répercussions au niveau direct de la construction. On peut parler de destruction d'habitats au niveau faunique, au niveau floristique. On parle de changer le régime d'écoulement des eaux de surface. Il y a beaucoup d'effets directs. Mais ce que nous, on craint le plus, c'est le précédent. Lorsqu'on ouvre la porte à ce genre de développement-là, où est-ce que ça s'arrête? Et le problème actuellement, c'est que le ministère responsable des parcs semble, je dis bien semble, prendre le parc du Mont-Tremblant comme étant l'exemple à suivre. Alors que pour nous, le Mont-Tremblant est l'exemple à éviter. Alors, il est clair que si on ouvre la porte à un deuxième Mont-Tremblant au parc du Mont-Offord, ben on n'est pas sorti de l'auberge.
Je sais qu'il y avait il y a un gros comité environnemental qui s'est créé dans la région justement pour se battre contre le promoteur, mais essayer de défendre les idées de protéger ce parc-là, qui vont probablement déposer des mémoires dans le cadre des audiences publiques. Je ne sais pas si c'est déjà fait. Ça va être quoi la tâche du BAP comme tel?
En fait, le BAP doit se pencher sur les répercussions pour l'intégrité écologique du parc advenant l'échange de terrain qui est proposé. On aime bien le BAP, c'est une institution très crédible, mais dans ce cas-ci, nous croyons que le BAP n'aura jamais dû obtenir un tel mandat. Alors là, on met le BAP dans une drôle de situation où est-ce qu'on lui demande son opinion par rapport à un projet qui contrevient à la loi sur les parcs. C'est clair pour nous que le BAP n'a pas le mandat de recommander au gouvernement d'aller à l'encontre de sa propre loi. Et pour nous, ainsi que les groupes régionaux, notamment faisant partie de la coalition là, Estrie verte, ça paraît un non-sens pour nous de permettre un projet qui va textuellement à l'encontre de la loi sur les parcs.
Wow. Mais il me semble que le gouvernement devrait être le défenseur de ses propres parcs. C'est pas un non-sens que ce soit des groupes environnementaux qui fassent la défense des parcs provinciaux.
Eh bien, effectivement, parfois on trouve ça un peu bizarre que ce soit des groupes comme la SNAP qui se retrouvent à jouer le chien de garde des parcs. Ça nous oblige à connaître la loi sur le bout de nos doigts parce que le gouvernement se sert d'articles de loi pour dire que que son opération, son échange de terrain est légal dans le cas du Mont-Offord. Alors que cet article de loi-là, à lui tout seul, ne peut pas dénaturer la nature de la loi qui donne une protection permanente. Et c'est clairement écrit dans la loi. Les parcs sont protégés de manière permanente. Et pour nous, permanent, ça veut dire perpétuité. Ça ne veut pas dire jusqu'au prochain projets de développement immobilier.
Je pense que vous l'avez bien mentionné sur la question d'un précédent. Si justement il y a entrée du promoteur dans le parc d'Oka, peut-être créer un effet boule de neige dans d'autres parcs. Il y a le cas du parc d'Oka qu'on peut mentionner rapidement. Une autre problématique en fait que bon la SNAP a suivi aussi. Qu'est-ce qui se passe dans le parc d'Oka? On en entend parler. On parle d'une compagnie pétrolière cette fois-ci. On parle d'un pipeline, donc un oléoduc qui est en train de se construire ou qui était déjà là.
En fait, dans le cas du parc d'Oka, il s'agit de remplacer un oléoduc qui était déjà présent et on le remplace par un oléoduc de plus grosse, de plus forte dimension et à un autre endroit dans le parc. L'idée de départ du promoteur et des gens responsables des parcs était de trouver un endroit plus qui aurait moins d'impact à l'intérieur même du parc. Nous, ce qu'on déplore, c'est qu'il n'y a jamais eu d'études sérieuses qui a été faite pour trouver un tracé alternatif qui contournerait le parc d'Oka. On a soumis des idées devant le BAP, qui encore une fois avait un mandat assez particulier d'autoriser un projet qui allait à l'encontre de la loi sur les parcs. Alors, on a fait valoir notre point de vue pendant plusieurs mois auprès des responsables. On l'a fait valoir devant le BAP et ça n'a pas fonctionné. Le gouvernement s'entête à vouloir aller de l'avant avec son projet d'un nouveau pipeline, un nouvel oléoduc dans le parc d'Oka.
Donc, vous êtes rendu où dans vos procédures? On a vu passer peut-être une poursuite judiciaire. Est-ce que c'est ça qui est en train de se tramer?
En fait, c'est jamais la solution qu'on préconise de se retrouver devant les tribunaux, mais dans ce cas-ci, on était à court de tribune et on a eu la chance de tomber sur un excellent avocat, Maître Paul Bégin, ancien ministre de l'Environnement, ancien ministre de la Justice, qui a accepté de nous représenter dans ce dossier. C'est vraiment le recours qu'on en est rendu là. On fait une demande en injonction pour que la Cour interdise la construction de ce nouvel oléoduc-là. Et ça, malheureusement, on a obtenu une injonction temporaire, mais le dossier n'est pas réglé. Ça traîne. Ça va aller à la mi-mars avant que le juge tranche le fond du dossier. Alors, d'ici ce temps-là, on affûte nos armes juridiques pour cette confrontation-là.
Mais pendant ce temps-là, c'est la compagnie Transnord Pipeline qui est déjà en train de construire dans le parc. Elle est en activité en ce moment?
Et d'où notre déception. On a obtenu une première injonction temporaire, mais c'était seulement pour 10 jours. Et les travaux ont repris de plus belle. Au moment où est-ce qu'on se parle, les travaux vont bon train. Et, on n'a pas réussi à rencontrer le juge. On ne reçoit pas le rencontrer avant la mi-mars. Alors, les travaux se poursuivent, ce qui nous laisse un peu un goût amer. Là. On aurait bien aimé être capable de rencontrer le juge pour trancher le litige avant même que les travaux soient aussi avancés.
Donc, évidemment, des dossiers qu'il va falloir suivre. Peut-être en terminant, votre point de vue sur la commission Coulomb, on sait que ça a été un rapport qui a été longtemps entendu. Les positions de Coulomb par rapport aux aires protégées sont quand même, je dirais, intéressantes. On confirme d'une certaine façon les attentes des groupes environnementaux, les groupes de pression pour les aires protégées. Est-ce que la SNAP est satisfaite de ces positions-là?
Au niveau des aires protégées, oui. Je crois que le message est en train de se répandre, que ce n'est plus seulement une hallucination d'écologistes, mais vraiment un besoin que la société québécoise a de se garder des territoires témoins, mais aussi de l'industrie. Parce que sans aires protégées, l'industrie va se retrouver à moyen terme dans une mauvaise posture sur les marchés du bois, en ne montrant pas qu'ils sont aptes à faire une bonne gestion. Alors, aussi bien pour la société que pour la biodiversité, que pour garder l'aspect concurrentiel des compagnies québécoises, les aires protégées sont sorties très, très fort dans le rapport de la commission Coulomb.
Et il y avait aussi la question de la représentativité de toutes les régions naturelles du Québec, évidemment, qui est à prendre en compte pour pas qu'on se retrouve, encore une fois, avec nos supposées réserves écologiques dans le nord et le fin fond du nord, mais bien un peu partout dans la province.
Oui, effectivement, c'est la difficulté actuellement, c'est qu'on a tendance à mettre les aires protégées où est-ce qu'il n'y a pas d'activité économique. Et ce qui fait que toute la forêt qu'on appelle la forêt dite commerciale au sud du 52e est actuellement sous-représentée dans le réseau d'aires protégées. Et pour ça, on est bien content que la commission Coulomb ait repris nos revendications que le réseau d'aires protégées soit représentatif de chacune des régions naturelles. Et l'objectif de couvrir un réseau de 12% d'ici 2010, c'est quelque chose qui peut être réaliste si la volonté politique est au rendez-vous et que les différents intervenants impliqués là, dans la planification du territoire accepte certains compromis.
Eh bien, on espère évidemment que ça va se passer. Eh bien, c'est évidemment aussi encourageant de voir qu'il y a des groupes comme la Société pour la Nature et les Parcs qui travaillent à défendre ces intérêts-là. Évidemment, on va suivre ces dossiers-là, puis on va peut-être avoir la chance d'avoir une autre présence de Jean-François Gagnon, directeur général de la Société pour la Nature et les Parcs à l'émission. Merci d'être venu.
Merci de m'avoir reçu.
On avait le plaisir de s'entretenir avec Jean-François Gagnon, directeur général de la Société pour la Nature et les Parcs, la SNAP, que je vous invite à visiter leur site web au snapqc.org. Pardon. Allez voir ça, beau site internet. Et d'ailleurs, la SNAP fait partie de la coalition Aux Arbres Citoyens, l'initiative Aux Arbres Citoyens qui regroupe 4 groupes écologistes qui travaillent à la protection de la forêt québécoise.
Et rappelez-vous que toutes ces coalitions, groupes, pétitions qu'on vous propose pendant l'émission sont sur notre site internet, le radiodelirium.net.
Et d'ailleurs, j'avais une belle petite nouvelle, puis ça va peut-être lancer les coups de cœur, coups de masse, on est rendu là. Hein? Petite nouvelle qui nous vient de la compagnie Dame Afro, puisqu'on est, on a la présence d'un snapper, du directeur de la SNAP. Eh bien, la compagnie Dame Afro qui lance une gamme de produits de fromage biologique qui va donner 2% de ses ventes à la Société pour la Nature et les Parcs jusqu'au 1er mai 2005. Quand même intéressant comme initiative. Ce serait le fun de voir ça un peu partout. Shell qui donne 10%.
Mancoop, tant qu'à y être, qui font la même chose. On les félicite, coup de cœur. Et un triple coup de cœur. Je continue. En fait, je suis allé faire du chien de traîneau. Vous tous à la maison qui n'avez peut-être jamais fait cette activité, eh bien, la motoneige, ça n'a rien à voir à comparer du chien de traîneau. Je vous encourage sérieusement à aller essayer le tout. Si jamais vous êtes inquiet à savoir qu'est-ce qui se passe, c'est la fête des neiges à Montréal. Vous pouvez d'ailleurs profiter de la fête des neiges. Il y a sûrement un site web, j'en doute pas. C'est sur l'île Notre-Dame pour aller essayer le chien de traîneau. Et sinon, allez vous taper une journée de chien de traîneau et plus de motoneige.
Bravo, eh bien moi j'en ligne avec...
Je vous ai-tu parlé du chien de traîneau?
J'en ligne avec une série de coups de masse. On sait que la rumeur d'un remaniement ministériel commence à se faire sentir. Alors j'y vais en rafale, sans aux ressources naturelles. Pierre Reed à l'éducation, vous en méritez une série. Chagnon, Dupuis, des coups de masse partout. Thomas Mulcair, on sait pas trop si on va vous avoir avec nous la semaine prochaine encore, mais chose certaine, vous méritez des coups de masse. Exportation d'eau, le projet de la 25, en veux-tu en v'là, ça va pas bien notre côté.
J'ai pas entendu Charest dans ta liste, moi, là.
C'est plate, le pire peut même pas être remanié.
Ben moi, j'envoie un coup de masse solide à l'ensemble de la STM pour la question de la distribution des journaux gratuits dans le métro. C'est un non-sens. On parle de protection de la forêt, on parle de gestion intégrée des ressources, on parle d'air protégé, on se défend comme on peut, mais on donne des journaux gratuits à bras comme on peut. Ça ne se dit pas pantoute. Et puis... En plus, on n'a même pas d'installation de recyclage adéquate. On arrive à la station de destination et puis il n'y a pas de boîte de recyclage. Un blâme, un coup de masse, je ne veux plus en voir. Surtout pas quand il y a deux compagnies, Métro puis l'autre, Montréal Métropolitain.
Hey, coup de cœur, peut-être Greenpeace qui ont fait leur campagne sur, en fait, boycottons Kleenex. Je ne sais pas si vous en souvenez. Allez voir, tapez Kleenex et Greenpeace dans Google, vous allez voir c'est quoi. En fait, Kleenex qui utiliserait peu de, pour, pratiquement pas, en fait, de papier... utilisés ou plutôt usagés pour faire de leurs Kleenex. Donc, on coupe des arbres pour faire des Kleenex. Il y a d'ailleurs une conférence ce mercredi de Stephen Guilbeault au Centre Laurier. C'est à 19h. C'est 11-15 rue Laurier-Est organisée par Greenpeace. Ils vont tout vous expliquer qu'est-ce qui se passe, protection de la forêt boréale et Kleenex.
Eh bien, moi, coup de cœur, bravo à vous tous Montréalais qui utilisez de plus en plus le transport en commun. La semaine dernière, l'enquête OD pour les intimes, origine, destination, eh bien, était rendue publique à la ville de Montréal et on s'en compte exemple qu'en 98-2003, eh bien, pour la première fois depuis 70, l'utilisation du transport en commun ne décroît pas dans la région montréalaise. Je vous propose d'aller sur notre site. On vous met en lien un petit article dans Le Devoir cette semaine, paru dans Le Devoir, qui fait un beau topo sur l'étalement urbain et les résultats de cette enquête.
Et j'y reviens, on parlait de Sam Ahmad. Et bien avant qu'il disparaisse, un autre coup de masse à Sam Ahmad. Ce matin a été déposée une pétition de 11 000 noms. Si vous n'avez pas encore fait votre devoir que de mettre votre nom sur cette pétition, on parle d'acte B sur notre site web au www.radiodelirium.net ou sinon acteb.org, je crois, taper acte B. C'est contre la centrale thermique au gaz naturel de Bécancour. 11 000 noms qui a été remis à M. Ahmad ce matin. 11 000 Québécois, Québécoises qui veulent rien savoir du thermique dans une situation où on a plein d'autres options. Shame on you qui disent.
Surtout dans une situation où est-ce qu'on est en commission parlementaire d'évaluation de notre avenir énergétique.
C'est ça.
Ah, pas de mots du bon sens. Hey, moi, j'envoie un solide coup de masse, encore une fois, comme la semaine passée, à toute cette panoplie de fonctionnaires et de hauts fonctionnaires qui sont en train de tripoter à gauche, à droite, notre beau protocole de Kyoto pour essayer de l'affaiblir, de l'amenuire, de le rendre un peu trop faible à mon goût. Et évidemment, de pas atteindre les grands pollueurs, c'est d'un non-sens. Mettez vos culottes.
Eh bien, moi, un dernier coup de cœur à la Hollande. Il y en a qui ont des idées vraiment intelligentes. Vous voyez, en Hollande, dans les plans d'aménagement du territoire, eh bien, on fait la chose suivante. Quand on construit une nouvelle usine, si l'usine a beaucoup d'employés, on la construit près des installations de transport commun. Si elle en a moins, on les met plus loin, près des autoroutes. Vous voyez qu'on peut penser différemment que de faire un étalement de focage urbain, de tout mélanger comme on a ici, au Québec. Je suis peut-être cru, mais c'est peut-être vrai.
Ok, c'était assez clair. Écoutez, peut-être juste vous rappeler qu'on a plusieurs événements rapides. Le film La Loi de l'eau avec de Robert Mondry sera présenté à l'Université de Montréal. L'entrée est gratuite. Également, je vous parle du festival de films de Banff. C'est un festival de films de montagne. Ça change les idées. Les Montréalais qui veulent se redonner le goût de conserver la nature, eh bien, allez voir ce festival des films de Banff. Eh bien, écoutez, je pense que c'est pas mal tout le temps que nous avons pour Délirium environnemental. C'était Patrick Bonin au micro qui vous parlait en compagnie de Nicolas Milo, de Nicolas Mainville. Également Jean-François Gagnon de la SNAP est venu faire son intéressant petit tour. Nous remercions Hugo Lachapelle qui est à la régie cette semaine, qui a fait un travail de maître. Et nous vous invitons à revenir évidemment la semaine prochaine parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui doivent être suivis au Québec et nous serons là pour le faire. Délirium environnemental, le magazine radio d'actualité en environnement.
On se rappelle, c'était nos cris de début d'émission pour signifier l'importance de la biodiversité.
15 000 espèces menacées dans le monde, mesdames et messieurs.